France Inter.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
On est gourmet. Le vrai gourmet est celui qui se délecte d'une tartine de beurre comme d'un homard grillé, si le beurre est fin et le pain bien pétri. En fait, de plat préféré, je préfère tout ce qui est bon, tout ce qui fait de l'heure du repas une petite fête des papilles et de l'esprit. Un jour, j'ai l'humeur aux salades, et prise que je suis d'huile pure, fruitée et de vinaigre rose que je fais chez moi, un jour, la viande est à l'honneur, saisie sur la braise, poivrée de poivre frais, le noir, celui des Antilles, avec une pincée de sel écrasé. Je n'ai pas dit de sel fin.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Le 28 janvier 1873, naissait à Saint-Sauveur-en-Puisaye, dans l'Yonne, Sidonie Gabrielle Colette, l'une de nos plus fameuses romancières à qui l'on doit Le blé en herbe, Claudine, Sido et des dizaines de romans, récits, pièces de théâtre et correspondances. À l'occasion du 150e anniversaire de sa naissance, on se met à table avec celle qui a toujours entretenu, dans la vie et dans son œuvre, une relation intime avec la nourriture. Quelle mangeuse était Colette? Eh bien, pour brosser son portrait gourmand, nous avons le plaisir d'accueillir Stéphane Solier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, Stéphane, notre spécialiste de littérature dans l'émission, professeur de lettres classiques à Paris. On vous connaît également sous la signature La Vita et une brioche. Allez faire un tour sur son compte Instagram. Vous y trouverez de très belles histoires de cuisine. Et on va décrypter avec vous les rituels gourmands de Colette, ses péchés mignons, ses souvenirs d'enfance. On va également explorer la géographie de ses goûts culinaires, depuis sa Bourgogne natale jusqu'à la Treille Muscade. Ça, c'est le nom de sa maison à Saint-Tropez, c'est bien ça?
Oui.
On va également faire un tour du côté du Palais Royal à Paris et le restaurant Le Grand Véfour où elle avait son rond de serviette. Et puis, vous allez nous faire goûter évidemment l'œuvre de Colette à travers un choix de textes spécialement interprétés pour nous par la comédienne Lou Lefèvre. Avec nous également, tout au long de cette émission, notre chef chroniqueuse Manon Fleury et notre chroniqueur vin Jérôme Gagnès. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Manon.
On va cuisiner ensemble grâce à Colette aujourd'hui, entre autres, un morceau de viande qu'on aurait plutôt l'habitude de mettre de côté ou de jeter à la poubelle, mais il y a plein d'autres choses.
Très intéressant, qui montre justement toute la vision champêtre, la vision rustique de la cuisine à la Colette, c'est ce que l'on va voir avec Manon. Et vous, Jérôme?
On tutoie les anges sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle.
On tutoie les anges sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, ça s'appelle une énigme.
Ça c'est très ardu, mais il y a un rapport géographique avec la maison natale de Saint-Sauveur-en-Puisaye.
Très bien, solution des jeux vers 11h30.
Exactement.
Parfait, pour interagir avec nous en direct à la maison, un mail à onvadéguster@radiofrance.com ou bien le bouton réagir depuis l'appli mobile de France Inter. Et pour retrouver tous les contenus de l'émission, nos recettes, nos podcasts, nos bonnes adresses, rendez-vous sur franceinter.fr à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Voici ce que Colette déclarait dans le magazine Marie-Claire en 1939. Mon estomac, remarquablement conservé, est celui d'une bourgeoise, gourmette et gourmande, qui n'a renoncé à rien de ce qui contente le palais, partant le cerveau. Alors on va commencer justement par cette déclaration qui permet un peu d'entamer à gros traits, hein, Stéphane Solier, le portrait de Colette à table, à la fois gourmette et gourmande. Comment il faut interpréter cette double expression?
Eh bien, en fait, c'est vrai que le portrait que l'on peut dresser de Colette est un portrait assez complexe, parce que tout au long de son œuvre, marquée par la dimension autobiographique, on la découvre amoureuse de plats simples, rustiques, mais aussi de plats élaborés, voire luxueux.
D'ailleurs, dans l'entame de cette émission, hein, il y avait l'idée qu'on pouvait être gourmette en appréciant à la fois une tartine de pain, mais également un homard grillé. On peut se contenter de choses simples et en même temps se tourner vers des plats plus sophistiqués.
Plus sophistiqués, effectivement. Et c'est une gourmette, et le terme Colette l'emprunte à Kurnonski, hein, collaborateur de son premier mari, Willy, et qui l'employa pour la première fois dans les années 20. Parce qu'elle apprécie les bons vins, les bons plats, certes, mais surtout parce qu'elle a, pour elle, la cuisine est une chose sérieuse, qui demande une initiation, un exercice constant, une recherche, une expertise. Manger, c'est absorber une géographie, une culture pour elle. Elle aurait pu s'approprier la citation de Maupassant, hein. Manquer de goût, c'est être privé d'un sens essentiel, d'une partie de la supériorité humaine, c'est avoir la bouche bête, en un mot, comme on a l'esprit bête.
C'est ça. Il y a cette idée aussi chez Colette de nourrir à la fois le palais et le cerveau, c'est-à-dire que, évidemment, c'est contenter le corps, mais également l'esprit. La fonction de se nourrir chez Colette.
Oui, exactement. Hein. En fait, la, c'est même ça nourrit aussi son écriture. On peut dire que la force suggestive et sensuelle de l'écriture colettienne a le pouvoir merveilleux de ranimer en nous cet imaginaire des sens que nous détenons depuis l'enfance. J'emprunte cette citation à Tania Brasseur-Vibault, hein, qui a travaillé sur la gourmandise chez Colette. Donc il y a la gourmandise est source d'inspiration et de création dans son écriture.
Vous êtes en train de dire que la nourriture chez Colette, c'est un matériau qu'elle digère et qu'elle transforme en fait en littérature.
Exactement. On voit qu'elle cisèle son écriture comme elle cisèlerait des ingrédients pour sa recette.
La cuisine des mots.
La cuisine des mots.
Tentons d'explorer à présent un peu sa géographie gourmande. Parce que c'est vrai que lorsque l'on pense à Colette, évidemment on pense... Jérôme Gagnès citait sa maison de Saint-Sauveur en Puisaye. Nous sommes en Bourgogne, où se trouve justement la maison familiale où elle est née, hein, maison qui est d'ailleurs ouverte au public depuis 2016, même si elle ne réouvre cette année qu'au mois de mars. On s'est renseigné parce qu'elle est fermée là cette saison froide. Et en même temps, Colette a exercé sa passion culinaire dans toute la France. Il y a eu des vagabondages tout au long de la vie de Colette, au fil de ses relations familiales et conjugales. Et on sait qu'elle a eu une activité conjugale assez fournie.
Assez fournie, oui, effectivement. On peut dire qu'il y a 6 cuisines de la vie de Colette, selon l'amour, la maison et la cuisine régionale. Donc en fait, on peut comme ça circuler, si on veut synthétiser un tout petit peu les goûts de Colette.
Alors, petit tour de France.
Allez, petit tour de France. D'abord, la cuisine du terroir bourguignon, hein, de Sido, sa mère, qui illumine son enfance. Hein. On pense à la soupe à l'oignon, aux escargots, aux coques au vin, au bœuf bourguignon, bien sûr, aux brochets sauce mousseline, gâteau de semoule fourré, le gâteau de riz aux groseilles. Donc il y a comme ça, elle est nourrie depuis sa plus tendre enfance par ce terroir bourguignon.
C'est beaucoup dans Claudine, hein, que l'on a ses références à sa cuisine d'enfance.
Effectivement, et en fait, elle a commencé à écrire le cycle des Claudines, hein, donc ces 5 ouvrages autour du personnage d'une adolescente un peu espiègle, laissée libre par son père qui est spécialiste de limaces. Et donc, ces romans vont explorer toute son enfance et son adolescence. Et ils ont été commandés par son mari, Willy, le premier, parce qu'elle s'ennuyait dans son premier séjour à Paris. Et donc, elle s'est lancée comme ça dans une œuvre à tonalité autobiographique. Mais justement, c'est la deuxième cuisine dans son parcours, c'est la cuisine parisienne de son mariage avec Willy, hein, jusqu'en 1906. Elle divorce en 1910. Et c'est une cuisine qui est un peu décevante au départ. Hein. Elle s'ennuie à Paris, son mari est très volage.
Le
choc de la vie citadine, elle va se réfugier dans les sucreries. Elle va d'ailleurs commencer à prendre du poids à ce moment-là. Et c'est sa mère, Sido, qui vient la réconforter, qui vient lui cuisiner des plats du terroir. Mais elle va quand même découvrir les premiers bistrots. Elle va faire son expérience de la cuisine parisienne dans ces années du tournant, enfin en tout cas du début du XXe siècle. Elle va même recevoir du monde à la maison, donc faire des buffets pour disons l'intelligentsia parisienne que fréquente Willy. On va ensuite, après son divorce, elle va connaître la cuisine bretonne de l'émancipation, puisqu'avec son divorce, elle va vivre sous la houlette de son amante Missy de Morny, l'artiste mondaine un peu scandaleuse de la Belle Époque.
Précisons que Colette est ouvertement, et elle le revendique, bisexuelle.
Oui, exactement. Et en tout cas, bon, elle a eu quelques périodes comme ça, et puis ensuite elle va à nouveau se marier. Missy va lui offrir le manoir de Rosven entre Cancale et Saint-Malo, et elle va découvrir les plaisirs de la pêche aux crevettes, des limandes, des homards. Elle dit « Je gravissais vite l'escalier, toute passionnée de flairer le courbouillon des petits homards ou l'échalote du thon en tranche, épais comme du veau. » Ça, c'est dans La Retraite sentimentale en 1907.
Donc, Colette et les produits de la mer, c'est vrai qu'on s'y attend un peu moins. C'est plutôt méconnu dans
sa géographie. Exactement, mais elle avait un vrai goût pour les produits de la mer. Hein. Et après, au hasard de son mariage avec Henri de Jouvenel, elle va découvrir la cuisine cuisine corrézienne, et donc les nourritures plus roboratives, des pâtés, des clafoutis, la flognarde, la fameuse flognarde, hein, ce flan auquel on peut ajouter des pommes, des poires ou des prunes, le cassoulet de Toulouse, la poitrine de veau farcie, bref.
On va parler cassoulet dans un instant, justement, c'est ça.
Et on peut continuer avec la cuisine méridionale, puisque à la faveur de son mariage avec Maurice Goudequet, elle va découvrir les saveurs aillées. Elle aimait déjà l'ail du temps de sa jeunesse, hein, mais elle va découvrir la rascasse au four, les artichauts à la barigoule, la bourride à l'aïoli, les agrumes ensoleillés. Et cette cuisine méridionale, en fait, elle la rattache à une sorte d'atavisme paternel cette fois, parce qu'on parle beaucoup de sa mère. Son père est peu présent dans son œuvre, mais le capitaine Colette était d'origine toulonnaise, et Maurice Goudequet va faire en sorte qu'elle va s'approprier ce terroir méridional. Elle va acheter une villa, une maison près de Saint-Tropez, qu'elle a joliment appelée la Treille Muscate, parce que il y avait une glycine avec une vigne qui pendait au-dessus de la table à manger, qui était sublime. Et elle a appelé ce paradis avec ce jardin incroyable la Treille Muscate.
On va en reparler dans le cours de cette émission.
Voilà, elle va découvrir tout l'amour qu'elle pourra avoir pour les légumes ensoleillés comme les aubergines, les poivrons et les tomates, qui sont la trilogie paternelle. Mais surtout, l'ail enchante tous les mets, comme elle le dit. Elle avoue qu'elle sent l'ail d'une manière homicide, qu'elle engraisse à vue d'ail. Et elle va même inventer une formule de politesse pour clore ses lettres à ses amis qu'elle embrasse de tout son cœur à l'ail de Provence.
Dernière étape géographique de la vie de Colette. Alors là, évidemment, c'est toute la fin de sa vie, la dernière partie de sa vie, et ça se passe à nouveau à Paris, avec là pour le coup une véritable histoire d'amour.
Oui, une véritable histoire d'amour avec la cuisine parisienne plus classique, plus élaborée, potage Argenteuil, coulibiac de saumon, entrecôte Bercy, éclair au chocolat, bref. Elle va nouer avec Paris une relation d'amour.
On va en parler dans un instant, puisque ça s'est passé du côté du Palais Royal, avec notamment le chef Raymond Oliver, 3 étoiles. Des petits pas de côté également à l'étranger, autour de la Méditerranée, notamment à Rome. Passion romaine de Colette pour une spécialité en particulier.
Oui, passion romaine à la faveur des séjours de son mari en Italie dans les années 1915-1917. Elle va découvrir l'Italie et notamment une très belle spécialité qu'on adore, les carciofi alla giudia, les artichauts
à la juive. Ça, c'est dans Flore et Pomone, 1943.
Dans Flore et Pomone, elle découvre ça, et il y a une petite trattoria qui lui sert, bien sûr, l'assiettée de pâtes, et elle dit « Un monceau quotidien de petits artichauts nouveaux saisis dans l'huile bouillante et raides comme des roses frites ».
Et voilà, et ça c'est une spécialité quand même qui vaut des points. Et ça se passe effectivement dans le quartier juif, le ghetto juif de Rome. Et Colette a expérimenté ça dans les années 1917. Derrière la vitre de la régie pour mitonner notre émission en direct, Laurent Thomas, Alexandre Chenet, Fabrice Ribaud, c'est toujours Djoubaka qui s'occupe de la programmation musicale. On va continuer à explorer évidemment le portrait gourmand de Colette. Juste après, You Can't Keep It From Me Forever de Pete Doherty et Frédéric Lowe. Bon appétit sur France Inter. You know what I want, you know what I need, you can't keep it from me forever. Forever.
can't keep it from me forever.
Je voudrais savoir si certaines trouvailles que vous prêtez à Claudine vous sont personnelles. Par exemple, Claudine a inventé la pelle à griller le chocolat, la tarte aux épinards, que sais-je encore. Je pense que la petite Colette d'alors était tout à fait capable de vivre de cette façon et d'inventer ces choses. Est-ce exact ?
Inventer ? Ça ressortit à une gastronomie campagnarde que je regrette pour vous que vous ne connaissiez pas. Comment la tarte aux épinards, la tarte à la citrouille, la tarte aux poireaux frais, la tarte à tous les légumes. Et quant au chocolat grillé devant le feu de bois, je ne sais pas, je le connais depuis ma naissance. C'était pratiqué dans ma famille. Le chocolat grillé, c'est une chose excellente. Je vous conseille beaucoup d'essayer.
Je n'y manquerai sûrement pas.
C'était un extrait de Colette, une femme insoumise, un entretien radiophonique avec l'écrivaine mené par le journaliste André Parrino, qui d'ailleurs, moi j'ai eu le même réflexe.
Ah oui, j'ai vraiment cru que c'était Jean d'Ormesson qui l'interviewait.
Même façon de parler, on est bien d'accord. Ouais. Un entretien radiophonique datant de 1949, où l'on entend d'ailleurs Stéphane Solier Colette avec un accent à couper au couteau.
Et oui,
elle roule l'air.
Colette bourguignonne à l'accent prononcé, hein, qui se dit appartenir à un pays qu'elle a quitté. Et on voit dans cet extrait qu'elle s'est inspirée, en fait, quand elle répond, on est en 49, elle reprend un texte sans le savoir, en tout cas qu'elle a tellement digéré, un texte tiré de Claudine s'en va, de 1903, où elle raconte justement que Claudine, effrontée, hein, affirme haut et fort, c'est moi qui ai inventé le grill à chocolat, ce génial petit machin qu'on a fabriqué nonobstant mes indications avec un manche trop court. J'ai inventé aussi la poêle sans trou pour griller les marrons l'hiver, l'ananas à l'absinthe, la tarte aux épinards. Elle parle bien de tarte aux légumes. On voit ici que, en fait, la vie de Colette est traversée aussi par son œuvre est traversée par sa vie.
Parce que tout est mêlé. Tous les rituels gourmands qu'elle évoque dans Claudine sont précisément puisés dans sa propre vie, en fait.
Dans
c'est
sa propre
des
vie.
Éléments autobiographiques.
Totalement.
Toute l'œuvre de Colette est aussi marquée, Stéphane Solier, au fer rouge, si j'ose dire, par des recettes, des protocoles de cuisson où la flamme, la braise, la cendre, le feu ont vraiment une grande importance. Et je vous propose de goûter justement la langue de Colette quand elle fait l'apologie de la cendre. La cendre comme technique de cuisson. Alors là, on est vraiment dans une approche rustique et campagnarde de la cuisine. C'est un extrait de Prison et Paradis, un texte de 1932, lu pour nous, bah, toujours par la comédienne Lou Lefebvre.
La cendre. Beau mot pour commencer un article mortificatoire. Que ne l'ai-je réservé pour mon article de carême ? Et pulverem reverteris. C'est qu'à vous dire vrai, la cendre n'éveille en moi que de gourmands souvenirs. Jean de la ville, quand je vous parle cendre, vous entendez escarbille. Je vous plains. La cendre, dans le plus frais de mon souvenir, c'est... Comment écrire ? C'est la fleur du feu. Sa blanche écume, son inséparable, son impondérable duvet, c'est la cendre de bois. Dans ce temps lointain où j'apprenais à respecter la cendre, couvrir le feu pour la nuit, réveiller le lendemain matin son ardeur capitonnée de cendre, j'apprenais aussi que la cendre de bois cuit savoureusement ce qu'on lui confie. La pomme, la poire, logées dans un nid de cendre chaude, en sortent ridées, boucanées, mais molles sous leur peau comme un ventre de taupe. Et si bonne femme que se fasse la pomme sur le fourneau de cuisine, elle reste loin de cette confiture enfermée sous sa robe originelle, congestionnée de saveurs et qui n'a exsudé si vous savez vous y prendre, qu'un seul pleur de miel. Trop cher pour nous, la truffe du Périgord cédait la place l'hiver à la truffe de Puisaye, qui est grise, à peu près insipide, et dont le parfum abuse l'ignorant. Mais grise ou noire, enfermez la truffe brossée dans une papillote de papier huilé, glissez-la au-devant du feu dans une taupinière de cendre très chaude, égrenez au sommet du tumulus minuscule de menu braise, l'inspiration, la légèreté de main et dents, vous exhumerez une demi-heure plus tard des truffes pour la croque au sel. La betterave rouge peut profiter après du lit tout chaud et embaumé par la truffe. Vous l'arroserez, à peine salée, mieux poivrée, d'huile d'olive, et vous l'accompagnerez d'un panache de céleri blanc. Et le vinaigre, vinaigré, si vous y tenez, mais recourez au vinaigre de vin, qui est doux.
L'art de transmuter les ingrédients selon Colette. Alors d'abord par la cuisson, en l'occurrence à la cendre, mais aussi ensuite, on le verra à la fin du texte, par la condimentation, l'assaisonnement, avec ce vinaigre rouge notamment. Il vient d'où chez Colette ce rapport à la flamme, au feu, à la cendre, Stéphane Solier?
Alors c'est tout dans ses allusions au feu de cheminée, au chaudron. Hein, évidemment, il y a une référence au foyer où crépite le feu, ce foyer qu'entretenait Sido, sa mère. En tout cas, le nom littéraire. Et
il y a donc un atavisme maternel, en fait.
Il y a un atavisme maternel. La fonction première du feu demeure la cuisson et la cuisson maternelle. La cuisine maternelle est faite de plats qui cuisent longuement étouffés, sans évaporation, repliés, si j'ose dire, sur eux-mêmes. Hein, c'était un extrait aussi de Prison et Paradis. Je tiens juste à préciser, Prison et Paradis, c'est un très beau recueil de textes.
1932,
1932, alors ce sont 39 textes, en fait, qui ont été écrits entre 1912 et 1932. Mm-hmm. Ils ont tous pour thème étroitement entrelacés les animaux dont elle avait, pour lesquels elle avait une adoration, le midi, la cuisine méridionale, pardon, le midi en général, et la cuisine en particulier.
D'accord.
Donc c'est un recueil que j'invite les auditeurs à consulter, il est merveilleux.
Prison et paradis.
Voilà, et cette cuisine de la mère est marquée par le feu. C'était pas, la mère de Colette n'était pas une grande gastronome, mais c'était sa fonction nourricière était vraiment mise en avant, et elle jouait comme ça sur la flamme, le feu, le grill. On a d'autres témoignages, hein, d'ailleurs, dans Prison et Paradis, de cuissons comme ça, à la flamme, au grill, au feu. On a le poulet à la cendre et à la glaise,
oui,
qui est une merveille. La boule d'argile et son noyau gallinacé subissent une crémation assez longue au sein d'une cendre épaisse de toutes parts entourée de braises qu'on attise. La perfection sauvage du tendre poulet vous incline vers une gourmandise un peu brutale et préhistorique.
Mais justement, le rapport de Colette à la cuisine est tout à fait primitif.
Oui, c'est un rapport simple à l'ingrédient dans sa brutalité
avec
extrême.
Le feu direct.
Oui.
Il y a d'ailleurs un autre exemple de texte tout à fait célèbre, on en avait goûté un extrait il y a quelques mois avec Elvira Masson, c'est la fameuse recette du poisson au coup de pied. Alors ça, c'est un texte vraiment extraordinaire sur la cuisson d'un poisson, justement.
Au grill,
mais en pleine forêt.
En pleine forêt.
Alors, ne pas reproduire, évidemment, risque d'incendie élevé.
Oui, on va éviter, mais en tout cas, l'appareil, un petit extrait magnifique qui montre comment elle rend sensuelle son écriture. Le poisson au coup de pied saute de son vieux grill dans votre assiette. Vous verrez qu'il est roide, vêtu d'une peau qui craque, s'exfolie et bâille sur une chair blanche, ferme, dont la saveur se souvient de la mer et des baumes sylvestres. La nuit résineuse descend, une lampe faible sur la table dénonce la couleur de grenat du vin qui emplit votre verre. Marqué d'une libation reconnaissante, cet instant heureux.
C'est ça, le poisson au coup de pied par Colette. On en vient aux recettes réinterprétées par Manon Fleury. On va commencer justement par une recette tout à fait rustique. Manon, on peut dire que pour vous, Colette est forcément... comme la chef cuisinière que vous êtes, avec votre curiosité, est une vraie source d'inspiration.
Oui.
Et il y a une Une recette de Colette qui vous a fait de l'œil.
Oui, pour parler de Colette aujourd'hui, je me suis plongée dans un très beau livre qui s'appelle Colette gourmande, que lui ont consacré Marie-Christine et Didier Clément. Le couple Clément est encore aujourd'hui aux manettes d'un restaurant étoilé à Romorantin, qui s'appelle le Grand Hôtel du Lion d'Or. Pour ce livre, ils ont réalisé un travail de recherche très savant, grâce au goût de Marie-Christine pour la littérature et au savoir-faire en cuisine de Didier. Ce livre est paru en 90, donc ça fait quand même 30 ans. J'y ai déniché une recette qui est pour moi tout à fait symbolique de la cuisine paysanne. Car comme vous l'avez dit, Colette était une amoureuse de la cuisine rustique. C'est une cuisine, en fait, vraiment des racines à laquelle moi, je suis moi-même effectivement très sensible. Colette nous présente donc une version très simple du cassoulet, avec une base dominante de haricots et très peu de tomates. Un tout petit peu de tomates. Mais ce qui m'a surtout intéressée, c'est qu'elle utilise la viande, je dirais, de manière condimentaire.
Et oui.
Comme cela se faisait souvent dans la cuisine paysanne, de me guider par le bon sens, en fait. On le faisait comme ça, parce qu'on n'avait pas beaucoup de viande sous la main. La viande est donc utilisée avec parcimonie, comme s'il s'agissait d'une garniture. Et surtout, Colette utilise des bas morceaux. D'abord de la saucisse aillée. Et surtout, elle préfère un morceau qu'on aurait l'habitude de jeter à la poubelle, la couenne de porc. La couenne, c'est vous savez, la peau rosade qui se situe au-dessus du gras. La couenne vient parfumer son plat, mais aussi, et ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est qu'elle vient apporter du gras, de la texture et un côté fondant assez impressionnant, en fait. En France, on n'a évidemment pas vraiment l'habitude de l'utiliser. On la retrouve plutôt dans la cuisine mexicaine, sous forme de chicharrones, quand on la fait souffler, ou en Asie aussi, souvent dans des bouillons. Donc, pour la recette, d'abord, il faut faire tremper des haricots blancs de type Mogette, mais vous pouvez aussi utiliser tout type de petits haricots blancs. Et vous les faites tremper une nuit, idéalement une nuit, c'est mieux. Le lendemain, vous les rincez, vous les faites blanchir pendant une dizaine de minutes avec justement ces morceaux de couenne que vous venez ficeler comme un bouquet garni. Ils vont apporter déjà des arômes aux haricots. Ils vont permettre aussi d'épurer le bouillon. Et alors souvent, on me demande comment on obtient de la couenne chez son boucher charcutier. Il faut lui demander souvent, c'est plus facile de lui demander un morceau qui vient de la poitrine du cochon. Et donc, vous réalisez ce petit bouquet que vous mettez avec vos haricots. Ensuite, vous récupérez vos haricots. Dans une casserole, vous faites suer deux oignons hachés avec une gousse d'ail écrasée. Et vous ajoutez une tomate pelée, fraîche, écrasée, ou en conserve. Par exemple, pour en ce moment, il vaut mieux utiliser de la tomate pelée en bocal. Vous ajoutez un bouquet garni, des haricots, puis une saucisse aillée entière. Moi, je l'ai mis entière avec mes haricots. Et la couenne que vous avez récupérée, qui a été blanchie et que vous avez ensuite émincée. Donc, vous la mettez par-dessus vos haricots en petits morceaux. Vous ajoutez un peu de bouillon de cochon ou de légumes que vous avez sous la main. Vous amenez à ébullition. Puis ensuite, vous laissez mijoter et vous mettez au four pendant 4 heures à 160 degrés. Il y a les fervents de la chapelure que vous pouvez rajouter à la fin, ou quelques croûtons croustillants.
Qui viennent s'imbiber du gras.
Et voilà, exactement. Et vous faites gratiner pendant quelques minutes au four.
Quel bonheur. Qu'est-ce qu'on en pense autour de ce plateau? C'est la fête, non?
Que du bien. Mon assiette est déjà terminée. J'ai été chichement servi. Hein. Je tiens absolument à protester.
Je peux faire une repasse.
Mais la texture onctueuse de cette couenne.
Mais moi, je trouve ça. Il m'arrive assez souvent, en fait, d'utiliser de la couenne de mes lardons.
Ah, vous dites couenne, vous?
Ouais. Ah oui, ou couenne. Je dis ce que vous voulez. Moi, vous savez, je suis pas chiant. Mais j'utilise souvent, effectivement, parce que ça parfume, en fait. Ça graisse et ça parfume. C'est une bonne façon de graisser et de parfumer.
Et de saler aussi.
Ah oui,
parce que là, il n'y a pas de sel. J'ai pas ajouté de sel.
Mais c'est absolument délicieux. C'est fondant. C'est très, très bon.
Les haricots sont notamment très fondants. On a cette petite pointe acidulée de la tomate. C'est vraiment formidable.
C'est très, très bien, Manon.
Quand vous voulez, Manon, des plats comme ça. Mais c'est vrai que la proportion de viande, pour le coup, est assez raisonnable dans ce plat. Et c'est ça qui est intéressant. C'est quand même une cuisine où la part protéinée animale est assez raisonnable.
Mais en fait, je m'aperçois que moi, finalement, c'est comme ça que je ferais un plat. C'est-à-dire que je mets de la viande dans mes plats pour le déjeuner, mais je mets peu de viande, finalement. Oui, je m'aperçois que je ne mets pas beaucoup de viande.
Et là, en fait, la viande sert à apporter un peu de gras et un peu de parfum, en fait.
Ben
la
base,
c'est les haricots, finalement. Et là, je n'ai pas ajouté de légumes. On pourrait mettre des épinards, on pourrait mettre des blettes, on pourrait ajouter...
Belle recette d'hiver. Stéphane Solier, nous resituer ce cassoulet de couenne dans l'œuvre de Colette?
Alors, en fait, elle... pas très présent dans l'œuvre, mais plus dans les témoignages, puisqu'elle a son... Bien sûr, ses œuvres de fiction sont traversées par l'autobiographie, mais elle a beaucoup écrit de textes, d'articles de journaux, dans lesquels elle exprime justement cet amour pour la campagne. C'était une provinciale. Son mari, Maurice Goudéquet, et je prononce bien le T,
et puisqu'on... Oui, car on a une remarque, figurez-vous, nous sommes écoutés par la nièce... oui, voilà, la nièce, le grand-oncle Goudéquet était en fait le grand-oncle de Juliette Goudéquet, qui nous signale que le T final doit
se prononcer.
Et c'est facile à retenir puisque ça rime avec Colette.
Colette, exactement. Et ben, son mari disait qu'elle était un produit de la plus pure terre française, française jusqu'au bout des ongles, provinciale avant tout. Elle aimait changer de logis, mais pour y reconstituer aussitôt un nid et une province. Et dans En pays connu, Colette proclame cette provincialité, cet amour, cet attachement à la terre, alors qu'elle est à Paris, hein. Le cœur recommence, 45 ans de Paris n'ont pas fait de moi autre chose qu'une provinciale, enquête sur 20 arrondissements et deux rives de fleuve de sa province perdue.
Donc Colette, parisienne d'adoption, mais elle garde ses racines provinciales et paysannes. Venons-en à Colette et le vin, une grande histoire d'amour du côté de la Bourgogne, mais pas seulement, c'est ce que l'on va boire, ce que l'on va boire aussi, avec Jérôme Gagnez.
On va déguster sur France Inter.
Je crois qu'il y avait une énigme.
Il y avait une énigme. Alors pendant que je donne les résultats de l'énigme, je vous invite à goûter ce que vous avez dans votre verre et vous allez me dire ce que vous en pensez, s'il vous plaît. En attendant, félicitations à la très très perspicace Béatrice Lallemand, qui habite rue de Wettolsheim. Alors ça me touche beaucoup parce que Wettolsheim est une commune qui m'est particulièrement chère, parce que j'y ai des amis vignerons, notamment le domaine Barmès-Bûcher et le domaine Stenz-Bûcher, que je salue à cette occasion.
On est en Alsace, rassurez-nous,
Jérôme. Alors, rue de Wettolsheim, j'imagine qu'on est en Alsace, pas très loin de Wettolsheim, probablement vers Colmar, dans ces eaux-là. Bravo à Béatrice Lallemand, puisqu'effectivement, l'énigme qui était « On tutoie les anges sur les chemins de Compostelle » faisait référence au vignoble de Vézelay, puisque Vézelay, en gros, c'est à une heure de route de la maison natale de Colette, à Saint-Sauveur-en-Puisaye. Saint-Sauveur, c'est dans le sud de Lyon, à la frontière avec la Nièvre. On est à l'ouest, un peu au sud-ouest d'Auxerre. Et Saint-Sauveur est quasiment à équidistance de Chablis et de Vézelay. Alors j'ai choisi aujourd'hui de vous parler de Vézelay et du vignoble de Vézelay parce que c'est un tout petit vignoble qui est relativement récent dans son appellation d'origine contrôlée puisqu'elle date de 2017. Le vignoble vézelien, lui, est beaucoup plus ancien puisque c'est un vignoble qui était fort connu sous les Romains. On y faisait du vin. Au plus fort de sa vie, ce vignoble a compté 1000 hectares, donc c'était quand même un vignoble qui était important. Et puis le phylloxéra et puis ensuite l'exode rural massif. Les guerres ont mis, comme dans beaucoup d'autres vignobles, ont mis ce vignoble à genoux. Il restait, d'après ce que j'ai lu, 1 à 2 hectares de vignes plantées à Vézelay dans les années 60, donc c'est très très peu. Et de vaillants viticulteurs, de vaillants paysans du Vézelien décident de remettre ce vignoble à jour, de replanter. Il se crée une petite cave coopérative et voilà ce vignoble qui reprend le chemin de la gloire.
Qui renaît de ses cendres.
Et donc, il faut quelques années évidemment, mais le travail, la persévérance et la qualité des vins produits amènent quand même ce vignoble à devenir une AOC de cru, hein, au même titre que Meursault, au même titre que Chablis, Vézelay, l'AOC Vézelay en 2017. Donc ce sont des vins blancs issus du cépage chardonnay.
Et oui, nous sommes en Bourgogne.
Ce sont des très jolis, terroirs argilo-calcaires. Alors, comme beaucoup en Bourgogne, c'est un vignoble qui se situe de part et d'autre de la vallée de la Cure. La Cure étant un fleuve qui est un affluent de l'Yonne. Et on a des sols qui se distinguent par des argilo-calcaires d'une façon générale. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est un petit peu ardu et puis c'est un peu barbant pour beaucoup de nos auditeurs. Disons simplement que le calcaire apporte ici cette dimension minérale très typique de ce type de vin dans le nord de la Bourgogne. Et justement, je voulais votre avis sur le vin. Dites-moi ce que vous en pensez.
En même temps, il y a du grain. Il y a quand même une expression aromatique assez riche.
Assez forte.
Oui, il y a de l'intensité, c'est vrai. Il y a de l'intensité, il y a du gras.
Des agrumes.
Il y a cette dimension au nez. d'un floral mêlé de miel et d'agrumes, avec une certaine intensité et une bouche. Alors c'est un 2020 que nous sommes en train de déguster. On est sur la fin des 2020. C'est le domaine. Je vais vous tout de suite donner le nom du domaine. Le domaine La Croix-Montjoie, qui est un domaine absolument merveilleux. C'est Sophie et Mathieu Voilier qui s'occupent de ce domaine, qui ont créé ce domaine en 2009. Et le vin que nous avons ici, eh bien, il a en bouche à la fois le gras, une certaine tendresse dans son expression, une certaine sensualité et en même temps de l'acidité. Les calcaires dont on parlait sont responsables aussi de cette fraîcheur inhérente à ces vins. Et on lorgne un peu du côté de Chablis, mais toutefois avec des vins avec un peu plus de sensualité, on va dire. Il y a une aromatique qui est très persistante. J'aime beaucoup les vins de Vézelay.
Et c'est précis.
C'est précis, c'est très net. Et il y a une élégance, une gracilité, une finesse d'expression, à la fois aromatiquement et à la fois en termes de texture de bouche, qui rend ce vin, pour moi, absolument délicieux. Alors, j'ai fait ce choix parce que j'avais envie de parler de Vézelay. C'était tout à fait en rapport direct avec Colette. Il faut reconnaître que le délicieux cassoulet de Manon met le vin un tout petit peu à la peine. Moins que je ne le craignais.
Non, avec sa saucisse, ça y est, mais finalement, ça va,
non,
en fait.
Moins que je ne le craignais.
Ouais, c'est assez équilibré.
Le vin résiste très vaillamment. Ouais. Il meurt en fin de combat, mais il meurt les armes à la main.
Il ne faut pas manger trop de saucisses.
Il ne faut pas manger trop de saucisses, exactement. Voilà, c'est un très joli vin, le domaine de la Croix-Montjoie. C'est un petit domaine de 10 hectares qui a été créé en 2009, et voilà, en l'espace de 10 ans, on a un résultat dans notre verre qui est assez bluffant, c'est d'une grande finesse.
Et préciser que la Bourgogne a toujours la réputation, évidemment, de produire des vins chers. Là, en l'occurrence, on reste assez accessible.
C'est tout à fait accessible. C'est 13 euros. C'était aussi la raison pour laquelle j'ai choisi de parler de Vézelay. Parce que, effectivement, la Bourgogne, bon, les prix s'envolent, c'est comme ça. On pourrait en discuter des heures. Peu importe, le fait est établi. Et donc, eh bien, intéressons-nous à des vignobles peut-être moins réputés, mais pas forcément moins qualitatifs. Et donc, merci à tous ces vignerons de si bien travailler et de continuer à nous proposer des vins de cette qualité à ce prix-là. 13 euros, ça reste très raisonnable. Tout est disponible, enfin, vous aurez toutes les coordonnées sur la page de l'émission. Appelez Mathieu et Sophie Voilet, ils sont formidables et ils font des vins absolument délicieux.
Domaine de la Croix-Montjoie, avec la cuvée L'Impatiente,
2020.
Formidable. 2020, citons aussi des vignerons qu'on connaît bien, Montanet Père et Fils, la Cadette.
Évidemment, il y a la Cadette, il y a d'autres vignobles, la Cadette, mes amis et confrères en ont parlé à ce micro, et la Croix-Montjoie mérite aussi un sérieux coup de projecteur.
Très bien, la viticulture, ce peut être dans certains cas du jardinage, et bien justement, transition toute faite vers une vraie passion collective. Tienne, le jardin.
Mon jardin n'en sera pas moins sage, sous sa vigne devenue aérienne. La tomate, attachée à des palisses, brillera de 1000 pommes, dès juin empourprées. Et voyez combien pommes d'amour, aubergines violettes et piments jaunes vont enrichir, groupées en un massif bombé à l'ancienne mode, mon enclos bourgeois. Sage, jardin, sage. N'oublie pas que tu vas me nourrir. Je te veux parée, mais de grâce potagère. Je te veux fleurie, mais non de ces tendres fleurs qu'un jour d'été crépitant de criquets calcine. Je te veux vert, mais foin des verdures inexorables, palmes et cactus, désolation de la fausse Afrique monégasque. Que l'arbouse s'allume à côté de l'orange et soit le brandon de ce feu violet en nappe sur mes murailles, les bougainvilliers. Et qu'à leurs pieds, la menthe, l'estragon et la sauge se dressent haut assez pour que la main pendante, en cassant leurs ramilles, délivre des parfums impatients. Estragon, sauge, menthe, sarriette, pimprenelle qui ouvre à midi tes fleurs roses, fermées 3 heures plus tard. Je vous aime, certes, pour vous-même, mais je ne manque pas de vous requérir pour la salade, le gigot bouilli, la sauce relevée. Je vous exploite.
C'était un autre extrait de Prison et Paradis, récit de Colette de 1932, où elle évoque quel jardin, Stéphane Solier ?
Alors ici, évidemment, hein, les indices nous indiquent tout droit...
Ça sent le sud.
Le sud, hein, évidemment, et j'adore la moquerie sur les jardins un peu trop ornementaux de Monaco, hein, qu'elle appelle l'Afrique monégasque.
Oui, c'est ça.
Elle s'en moque assez férocement, et on voit ici dans cet extrait hein, que le jardin, donc c'est le jardin de la Treille Muscate, hein, du sud, et on voit que le jardin a une, bien sûr, une vertu ornementale, elle l'adorait, elle ne pouvait pas écrire sans la présence de fleurs, mais il a aussi évidemment une vertu alimentaire.
Nourricière, presque. Nourricière. C'était le jardin vivrier.
Exactement. Hein. Elle dit, même quand elle était à Paris, il m'a toujours fallu un appartement très petit et un Éden énorme. Donc on voit qu'elle est gourmande de parfums, de couleurs, de saveurs, que les jardins sont la base de sa cuisine. Elle avait toujours sur ses balconnières, hein, même à Paris, des plantes aromatiques. Elle allait dans les parcs cueillir des petites plantes pour réveiller un peu ses sauces, ses plats. Donc non, c'est une vraie amoureuse du jardin dans toutes ses dimensions.
Preuve que là encore, Colette, même en plein milieu urbain comme à Paris, elle gardait toujours ses racines paysannes et ses réflexes.
Oui, d'ailleurs.
D'aller cueillir, notamment dans les jardins.
Dans les jardins. Et d'ailleurs, son mari disait qu'elle mangeait le jardin. C'est-à-dire, dès qu'elle entrait dans un jardin, même qu'elle ne connaissait pas, elle apprenait à le connaître en goûtant les choses qui n'étaient pas forcément alimentaires, hein, mais il fallait qu'elle goûte les différents éléments du jardin, que ce soit des fleurs ou des plantes aromatiques ou des champignons poussés là par hasard, etc.
Alors il y avait les choses cultivées de son jardin, puisque Colette, c'est officiel et son œuvre le prouve, avait la main verte. Mais il y a aussi, très important dans l'œuvre de Colette, toutes les ressources sauvages issues de la cueillette. On peut dire que la cueillette, c'est son sport favori.
Oui, c'est son sport favori. D'abord, c'est une activité évidemment qui renvoie à l'enfance, à l'école buissonnière. Dans le premier roman de Colette, hein, Claudine à l'école, la première allusion à la nourriture apparaît dès le quatrième paragraphe.
Hein. Ah oui.
Elle décrit
elle
les
dévoile
bois.
Son jeu assez vite.
Voilà, elle décrit les bois de son pays et elle raconte qu'elle y ramasse des faines, ces bonnes petites graines huileuses qui grattent la gorge et font tousser. Donc, la cueillette n'est pas toujours une cueillette d'ingrédients alimentaires. Hein. Ça peut être, c'est la découverte du monde.
Elle a appréhendé le monde par la bouche, en fait, hein, en goûtant.
Et une célébration du monde. Hein. Colette est au programme du bac depuis cette année, et le thème transversal de son œuvre, Sido et les vrilles de la vigne, c'est la célébration du monde. Donc elle célèbre le monde, la nature, par tous les sens, et en particulier le sens olfactif et gustatif.
Et là encore, il y a une filiation avec sa mère Sido, qui lui a enseigné justement cet art de la cueillette, sachant que Colette détenait un savoir énorme en termes de botanique. On dirait aujourd'hui qu'elle était ethnobotaniste.
Oui, tout à fait. Elle avait une vraie connaissance. Hein. Quand je nomme l'alise acidulée qu'on cueille en octobre et qu'on garde pendu l'hiver, la cornouille ou courgelle, petit fruit écarlate, bon pour la confiture, quand je cite la corme délicieuse, et je pourrais vous faire toute la liste, elle finit en disant « Ne me donnais-je pas l'air de vous parler par énigme ?» Donc elle a une vraie connaissance très approfondie de la botanique.
Un peu comme chez Jean Giono, hein, le fameux écrivain de Manosque, on a le sentiment que l'apologie de la cueillette chez Colette comporte un peu de manière sous-jacente la critique de la ville. La vie citadine, finalement, coupe un peu l'être humain de ses racines terrestres. Et Colette croit en la supériorité de l'homme de la terre à l'homme de la ville.
Oui, et alors justement, elle a perpétuellement maintenu ce lien avec la terre, même quand elle était en plein cœur de Paris, au Palais Royal. Hein, elle avait comme ça ce lien presque viscéral avec la terre, avec la glaise, avec l'herbe. Donc il y a ce lien-là très très fort.
Colette, c'est l'écrivaine de la contemplation, de l'émerveillement, du souvenir, on l'a vu. Mais il y a aussi une Colette qu'on connaît peut-être un peu moins, qui est la Colette engagée, voire même emportée. Vous allez voir, elle avait une vision de la gastronomie tout à fait affirmée, certains diraient un peu réac ou tradi. Je voudrais vous faire découvrir un texte de Colette, un texte assez vindicatif. On est vraiment dans une forme de dénonciation. Aujourd'hui, on pourrait parler de billet d'humeur. C'est le texte Récrimination, un article publié dans le magazine Vogue en 1929, et c'est toujours Lou Lefebvre à la lecture.
Un exécrable snobisme veut déguiser la gourmandise française en un culte que la momerie déshonore. À qui fera-t-on croire que le Navarin ne se consomme que derrière des rideaux de coton quadrillé rouge et que le vin est meilleur dans un pichet de faïence à devise ? Non, je ne suis pas bien assise sur un banc de bois façon rustique. Non, l'oignon haché, les fines herbes et la julienne ne constituent pas une panacée, ni une base alimentaire. Non, je n'admets pas qu'un verre de calvados versé sur le bœuf braisé 10 minutes avant sa consommation mérite le nom de recette régionale. Pas plus que ce fromage râpé, poivré, passé au four, qui sert à masquer indifféremment les œufs au plat, le merlan, la tomate, les nouilles, les épinards et cent autres petits plats qu'il banalise, qu'il empâte et qu'il dépouille de leur originelle saveur. Laquelle d'entre vous se doute, lectrice, en savourant l'authentique lièvre à la royale, fondant chaud à la bouche, que 60, vous lisez bien, 60 gousses d'ail ont coopéré à sa perfection. Un lièvre à la royale réussi n'a pas goût d'ail. Sacrifié à une gloire collective, réduite à une consomption sans seconde, les 60 gousses d'ail méconnaissables sont pourtant présentes, indiscernables, cariatides qui soutiennent une flore légère et grimpante d'épices potagères.
Quelle langue, quand même!
C'est ciselé, c'est une merveille.
Là, on voit Colette, amour de l'ail confirmé. Hein.
Ah, amour de l'ail confirmé. On voit ici qu'elle dénonce. Elle avait cette plume assez trempée dans le fiel.
Alors, hein. qu'est-ce qu'elle veut nous dire dans ce texte? Elle a l'air effectivement assez emportée avec une vision de la gastronomie tout à fait tranchante.
Eh bien, elle bat en brèche un certain folklore, hein, une certaine mode folkloriste hein, qui voulait comme ça qu'on incorpore des ingrédients pseudo-régionaux pour régionaliser une recette. Elle avait vraiment cette exigence sur l'authenticité qui faisait sa marque de fabrique. On pourrait dire quand même.
Elle considérait que les spécialités régionales étaient caricaturées, et notamment dans des villes comme Paris, et que la cuisine régionale, non, ce n'était pas que ajouter un petit accent de dernière minute pour faire.
Exactement, mais là on sent quand même du Jean-Pierre Coff avant l'heure. Hein.
C'est ça.
Elle a vraiment une exigence. C'est une femme très exigeante.
Continuons à grignoter, savourer, déguster la cuisine colettienne avec une autre recette que vous avez choisie, Manon Fleury.
France Inter. On va déguster.
Après le cassoulet de Quen et non Quan. Bon, ça c'est fait.
Je conteste.
Qu'est-ce qu'il dit, professeur de français?
Moi je dis Quan.
Voilà.
Ah, c'est Quan? Ah non, c'est donc moi qui ai tort. Bon, je me tais. On va donner la parole à Manon Fleury. Ah oui, je me suis ridiculisé là.
Non, pas du tout, patron.
Donc, je voudrais vous parler d'une autre trouvaille que j'ai faite toujours dans le livre de Marie-Christine et Didier Clément. Il s'agit d'une galette à l'écume de beurre. J'adore ce titre, rempli de gourmandise.
Ah oui.
On trouve la définition de l'écume de beurre dans le texte de Marie-Christine. Je cite dans le livre. Dans la Bourgogne pauvre de Colette, le beurre est une denrée de luxe. À l'entrée de l'automne, avant qu'il ne coûte le double de l'été, chaque famille en achetait une grande quantité et le faisait fondre pour l'hiver. Elle y indique les principes de la recette. Il faut le faire fondre à feu nu, l'écumer tout au cours de son ébullition, puis le couler avec soin dans des pots en grès. Le beurre refroidit, on couvre les pots et on les conserve dans un lieu sec et frais. Donc à l'époque, on ne jetait rien. On allait même jusqu'à utiliser l'écume récupérée au moment de la fonte du beurre pour réaliser des galettes pour les enfants. Alors que moi, on m'a toujours appris quand on fait, c'est le principe d'un beurre clarifié, qu'on jette cette écume à la surface du beurre.
Là encore, tout se recycle et tout se transforme.
Tout se recycle et c'est effectivement très moderne. Donc pour faire la recette, j'ai fait fondre. Juste 1 kg de beurre.
Ah, quand même.
À feu très doux.
D'accord, donc 4 tablettes de 250 grammes.
J'ai pris soin de récupérer avec une écumoire la mousse qui se forme donc à la surface du beurre. C'est très important de le faire fondre très doucement pour avoir vraiment cette mousse qui vient délicatement à la surface. J'ai récupéré à peu près 250 grammes de cette écume que j'ai placée dans un récipient avec 500 grammes de farine T65 et 2 pincées de sel seulement. Donc c'est, vous voyez, c'est vraiment le principe d'une galette rustique, paysanne, qui sent vraiment qui a un bon goût de beurre. J'ai mélangé et j'ai étalé cette pâte. Je l'ai ensuite repliée sur elle-même, vraiment dans le même principe qu'une pâte feuilletée. Je l'ai laissée reposer 30 minutes avant de l'étaler à nouveau et de faire des formes rondes à l'emporte-pièce. Il faut encore laisser reposer 30 minutes ces rondelles de pâte avant de les enfourner à four chaud à 200 degrés pour 15 minutes. Et on obtient donc ces galettes qui ont vraiment un goût, je dirais, paysan, ce goût très beurré, rustique. Elles sont vraiment très rustiques, elles sont très sèches. Et ces temps de repos qu'on fait entre ce pliage, puis ensuite le fait de l'étaler et d'emporte-piécer ces formes rondes, ça crée, ça apporte l'humidité dans la farine en fait. Le beurre va humidifier la farine et il va y avoir ce côté un petit légèrement levé quand on va les cuire au four.
Et là on a des palets d'environ 8 cm de diamètre. Il y a un côté sablé, friable,
très,
c'est excellent.
Très friable, c'est très sablé.
Ah là là, ça c'est une sacrée recette à refaire à la maison.
C'est vrai que c'est à la fois rustique, c'est rustique par le fait qu'il n'y a pas du tout de sucre et qu'on s'attend à ce que ce soit sucré.
Exactement.
De ce point de vue-là, c'est très rustique, mais c'est très raffiné dans la texture. C'est une texture magnifique.
Ouais.
Bravo, hein. Oh là là, prodigieux. La recette de Manon Fleury, inspirée par Colette, à retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster. Manon, une actualité 2023 à nous annoncer en avant-première. On a hâte de savoir.
J'ai la bouche pleine.
On a hâte de savoir ce que vous allez faire en cuisine cette année.
J'ai encore la galette au beurre dans la bouche. Je poursuis ma collaboration donc avec le Perchoir,
oui.
Où j'étais au Perchoir Ménilmontant juste avant la fin de l'année, donc jusqu'en décembre. Et là, je poursuis ma collaboration avec eux, toujours dans un principe de résidence, mais qui va se continuer et qui va être dans une logique justement de continuité et d'accompagnement d'autres femmes chefs qui vont continuer après moi, toujours avec une philosophie autour du maraîchage, mais encore plus poussée parce qu'il s'agit d'une maison à la campagne, mais à Paris.
Oui.
Petit teasing.
Pas très loin, dans les alentours de Paris.
Voilà, donc je laisserai les clés à d'autres femmes qui continueront par la suite, et ce qui me laissera le temps, je l'espère, de pouvoir ouvrir mon restaurant.
Et voilà, Manon Fleury,
voilà une bonne nouvelle.
Au fourneau de son propre restaurant, et vous verrez qu'elle fait de sacrées étincelles. Une des cuisinières les plus talentueuses de sa génération sur la scène gastronomique. Merci beaucoup, Manon, et puis vous continuerez bien entendu à venir nous expliquer vos recettes. Dans On va déguster, allez, il nous reste une poignée de minutes pour évoquer Colette à Paris, et je vous propose d'écouter un extrait de Colette. C'est un film portrait de Yannick Bellon, qui date de 1951. Colette est assise dans le salon de son appartement, avec ses fenêtres donnant sur le jardin du Palais Royal. On est 9 rue de Beaujolais, dans l'appartement, le petit appartement qu'elle occupait. Elle vécut à cette adresse assez longtemps, jusqu'à sa mort d'ailleurs. Et là, vous allez entendre Pauline, sa fidèle cuisinière qui rentre du marché.
Pauline. Madame, on a le marché. Pauline, mais vous voulez me rendre végétarienne ?
Mais c'est très sain pour madame.
La potée au chou et au cochon est aussi très saine pour madame.
Mais c'est très bon, très bon.
Ça.
Ils sont peut-être
Pauline.
Un peu forts.
Ah, je vais essayer, Pauline. Il n'y a rien de tel. Pas mal du tout.
Pas mal du tout.
La douceur même.
Voilà des radis.
Oui. Vous pouvez m'ajouter que c'est des radis creux.
Ah, madame, le temps, il ne pleut pas du tout. Des petits pois, les petits pois sont beaux. Non, ils sont sucrés. Les tomates sont belles.
Allez, enlevez tout. Et une fraise, pour moi. Et maintenant, enlevez.
On le voit dans cet extrait, Colette était une croqueuse, une dévoreuse. On l'entend croquer un oignon à pleines dents. Alors Colette décédera en 1954, 3 ans plus tard, dans cet appartement qui était d'ailleurs, Stéphane Solier, stratégiquement situé à 2 pas du Grand Véfour, le restaurant 3 étoiles du chef gascon Raymond Oliver.
Ils ont établi entre eux une relation extrêmement privilégiée. Elle était effectivement une voisine avec Cocteau de ce grand restaurant. En fait, elle souffrait d'arthrite. Et donc, parfois, elle ne pouvait pas se rendre au restaurant. Donc, Raymond Oliver avait établi tout un petit système de chaises à porteurs où les garçons du restaurant pouvaient venir transporter Colette jusqu'au restaurant, ou alors elle avait elle-même son plat qui montait directement dans l'appartement. Raymond Oliver a développé des recettes qu'il a évidemment dédiées à Colette, le coulibiac de saumon, le fameux lièvre à la royale dont on a entendu un petit extrait tout à l'heure. Alors c'était 60 gousses d'ail. Raymond Liver avait diminué à 40 gousses d'ail, mais vous voyez qu'il y avait une vraie relation privilégiée. En fait, vraiment, Colette était une citoyenne. Elle s'est proclamée citoyenne du Palais Royal. Elle avait tout un microclimat autour d'elle et même elle a déploré la disparition de la pâtisserie flamand qui faisait aussi son bonheur juste sous ses fenêtres.
Voilà, Colette, merci pour cette belle épopée culinaire, une grande femme de lettres que l'on a découverte à travers justement ses goûts culinaires. Des ouvrages nous ont aidés à construire cette émission. Hein. On vous a mis toutes les références sur le site. Il y a une littérature très abondante qui raconte justement les relations entre Colette et la cuisine. Amis bordelais et bordelaises, j'ai l'immense plaisir de venir à vous cette semaine à l'invitation de la librairie Mola qui organise une rencontre dédicace autour de notre livre On va déguster Paris. Ce sera ce mercredi le 18 janvier à partir de 18h à la librairie Mola à Bordeaux. Stéphane qui avait activement contribué à ce livre, vous n'y serez pas,
non.
Mais je serai accompagné de Charles Patin-Aucoun, l'un des rédacteurs en chef du livre, et de Jérôme Gagnès à Bordeaux, mercredi à 18h la semaine prochaine. Un tour du monde du biscuit, Déborah Dupont, Loïc Bienassi, Antoine Gerbel et Elvira Masson seront en plateau avec nous à dimanche prochain si vous avez encore faim.